Deuxième conférence de la journée du 9 juillet 1986.
Ce qui est bien, le pas un mot philosophique. C'est un mot de tradition religieuse. Mais le philosophe montre que ce mot a une signification si on est intelligent. Parce qu'on a toujours un petit peu la tendance de dire les traditions religieuses, c'est pour le bon peuple. Et l'intelligence, c'est pour les intellectuels. Pas du tout. Les intellectuels ont besoin des traditions religieuses s'ils veulent rester des hommes. Ça fait partie de l'homme. Or, l'homme est plus que l'intellectuel. Puisque c'est l'homme qui est intellectuel. Et c'est pas l'intellectuel qui va forger un nouvel homme. Donc l'intelligence recherche de la vérité. Et au terme, quand l'intelligence découvre l'être premier, quand elle découvre Dieu, en disant cet être premier, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Quand elle découvre le Créateur, l'intelligence est capable de cela, tandis que la raison, c'est au niveau des raisonnements. La raison est essentiellement dans le relatif. L'intelligence peut saisir des principes. La raison ne saisit jamais de principes. Elle raisonne. Le raisonnement, c'est un devenir. Dans l'ordre de l'intelligence. Donc elle demeure dans le relatif. Tandis que l'intelligence intus legere saisit des principes, quelque chose d'absolu, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Donc ça, c'est le propre de l'intelligence. Et l'intelligence découvre au terme Dieu, le Créateur, et dans la lumière de Dieu Créateur, elle peut juger de tout. Et alors on a le jugement de sagesse. Que de fait, au point de vue philosophique aujourd'hui, personne n'en parle. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des philosophes, même des théologiens, 95%, m'a-t-on dit, à Rome, quelqu'un que j'estime, il m'a dit, 95% des philosophes, même chrétiens, des théologiens, prétendent que l'intelligence est incapable de découvrir l'existence d'un être premier. Ce qui va contre toute la grande tradition chrétienne. J'ai fait l'enquête parce que je voulais avoir le cœur net. Tous les pères de l'Église, tous, disent que l'intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. philosophe remplace l'artiste. Il est très mal parce qu'il n'est pas un poète. Quand il est un poète, ça peut arriver. Il y a des philosophes qui sont des poètes. Des poètes métaphysiciens. Alors on voit très bien ce que ça veut dire. Mais c'est très rare. La plupart du temps, ils restent dans la logique et font une œuvre. Donc, vous avez l'intelligence et la raison. Et par le fait même, vous avez ce qu'on pourrait appeler l'intelligibilité et la rationalité. Eh bien, je crois qu'on doit dire que le monde, parce qu'il est pensé par un créateur dans sa sagesse, est intelligible. Il est intelligible, le monde. L'homme est source de connaissances. Il est intelligible. Donc l'intelligibilité va plus loin que la rationalité. Réduire l'intentionnalité à la rationalité, c'est réduire l'intelligence à la raison. C'est-à-dire le monde est logique, mais non, le monde n'est pas logique, je regrette. C'est l'homme qui est logique, c'est pas le monde. Le monde est plus intelligent que la logique. Demandez à une araignée si elle est logique. Non. Demandez à un animal s'il est logique. Non. Ou c'est la logique de la vie. Mais la logique de la vie, c'est pas la logique. C'est tout à fait différent. Demandez à un arbre qui pousse. S'il est logique, pas du tout. C'est pas ça. C'est une organisation interne, vitale, qui a une finalité. L'intelligibilité implique une finalité. Alors que la rationalité n'implique pas de finalité. Et ça, c'est capital, vous comprenez de comprendre ça. La rationalité, c'est le point de vue de la logique. En logique, il n'y a pas de finalité. En logique, on regarde uniquement un ordre immanent. Il n'y a pas de contradiction. S'il n'y a pas de contradiction, on est tranquille, on est paisible, on est heureux. Si vous n'avez pas de contradiction dans votre vie, vous êtes heureux. Je sais pas. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est d'aimer. Le bonheur, c'est d'atteindre sa fin. C'est d'atteindre son bien. L'ordre logique expulse la contradiction. C'est propre. C'est très très propre. Mais vous savez, c'est propre dans le sens où ça n'a ni odeur, ni saveur. C'est uniquement comme ça. Ces gaz particuliers qui sont de cet ordre-là, eh bien, la logique, c'est comme ça. C'est un ordre sans contradiction, sans finalité. Le rationnel, il n'a pas de finalité. Tandis qu'au contraire, l'intelligibilité a Si le monde était rationnel et uniquement rationnel, il y aurait adéquation entre la science qui fait connaître le monde et le monde lui-même. Tandis que quand je dis que le monde est intelligible, je veux montrer qu'il y a diverses manières de connaître le corps humain. Il y a diverses sciences qui connaissent le corps humain. Et chacune de ces sciences n'est pas adéquate à la réalité. La réalité est plus que la science. La réalité mesure la science. Et non pas la science mesure la réalité. C'est pour ça que je peux indéfiniment essayer de comprendre ce que c'est que l'homme. Je peux indéfiniment essayer de comprendre ce que c'est que l'esprit. Parce que je sais que ce que je connais n'est pas adéquat au réel. Le réel est plus. C'est pour ça que j'aime mieux mettre l'intelligibilité. Parce que dans l'intelligibilité est contenu l'exister. C'est la réalité existante qui est intelligible. Et il y a quelque chose dans la réalité qui ne pourra jamais se ramener à la raison. Jamais. L'ordre vers le bien. L'ordre vers le bien dépasse. La bonté de l'univers ne peut jamais se dire scientifiquement. Jamais. Ça échappe à la science. C'est au-delà de la science. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Oui, c'est très important ça, parce que autrement, on ne comprend plus. On ne comprend pas comment on peut regarder l'univers scientifiquement, science physique, science astronomique, et philosophiquement, et poétiquement. Un poète, il regarde une forêt, mais il la regarde autrement que le garde de la forêt. C'est pas tout à fait le même regard. Il la regarde autrement que le savant qui fera l'analyse de ces différents poids, de ces différentes espèces. Et le philosophe y regardera encore autrement. C'est pour ça que c'est très important de dire l'intelligibilité inscrite dans l'univers amène à l'idée du panthéisme. Je dirais non. L'idée du panthéisme, c'est l'immanence logique. Le panthéisme, c'est uniforme. C'est oublier la diversité qui existe dans l'univers et que l'univers implique un ordre. Et que l'univers, parce qu'il implique un ordre, n'est pas fermé sur lui-même. Tandis que dans le panthéisme, on ferme l'univers sur lui-même. Ça, c'est à base de logique. Tout panthéisme confond l'intelligence et la logique. La philosophie et la logique. Bon, je crois que c'est suffisant de montrer ça. Parce que, alors immédiatement, il n'y a plus d'opposition entre l'attitude religieuse et l'attitude philosophique. Il peut y avoir une opposition entre la logique poussée à l'extrême comme absolue. Et la religion, ça oui. Pourquoi ? Parce que l'attitude religieuse reconnaît qu'il y a un créateur qu'on adore. L'attitude religieuse, c'est l'adoration. Donc, c'est une finalité. Donc, c'est un amour. La religion garde l'amour foncier à l'égard de Dieu. Or, la logique ne connaît pas l'amour. Et même souvent, la logique ne l'aime pas. Parce que c'est irrationnel. C'est vrai, quand vous voyez quelqu'un qui est amoureux et que vous regardez ça avec des yeux logiques, il a perdu la tête, il commence à aimer. Il a perdu la tête, il commence à aimer. Et c'est vrai, c'est vrai. c'est pas du tout qu'on perd la tête quand on commence à aimer. Je dirais, on commence à vivre. On vit quand on aime. On vit pleinement quand on aime. On vit quand on est intelligent. Est-ce qu'on vit quand on est logique? Point d'interrogation. Je crois pas qu'on vit beaucoup quand on est logique. On est rationnel. Respect pour l'intelligence, j'aime beaucoup l'intelligence contemplative, je respecte la raison, mais une raison qui n'étouffe pas la contemplation, une raison qui ne veut pas faire alliance avec la logique pour tyranniser et devenir la et supprimer la contemplation. Quand la raison se révolte contre l'intelligence contemplative, c'est une raison liée à la logique, et quelquefois liée aux mathématiques. Et les grands mathématiciens sont furieux, parce que les grands mathématiciens n'aiment pas d'être identifiés à la logique. C'est très intéressant de connaître de bons mathématiciens pour leur demander, parce que ce sont les petits mathématiciens qui ramènent tout à la logique. C'est les petits philosophes qui ramènent tout à la logique. Parce que la logique, c'est second, c'est pas premier. Ce qui est premier, c'est ce contact avec le réel, jugement d'existence, et de comprendre que le réel a toujours quelque chose à nous apprendre. Et que si on est en contact avec le réel, on s'ouvre vers quelque chose qui nous dépasse infiniment. Tandis que si on s'enferme dans ses idées et dans l'universel logique, au bout d'un certain temps, on est complètement asphyxié. Donc vous voyez, l'intelligibilité ne s'oppose pas à l'attitude religieuse. C'est la logique prise comme absolue qui peut s'opposer à l'attitude religieuse. D'autres petites questions. Il y en a beaucoup, je comprends du reste, parce qu'on soulève des tas de problèmes énormes. Le mal, comme vous le dites, c'est au centre de tout. C'est au centre de tout, puisque le mal nous conduit au bien, et que le bien, c'est toute notre vie. L'humilité est-elle une vertu morale, religieuse ou chrétienne? Bien, je crois que si on fait les trois niveaux de l'éthique, ce qui me semble très important dans le monde d'aujourd'hui, plan philosophique, l'éthique humaine, l'éthique religieuse, l'éthique chrétienne, l'éthique musulmane est une éthique religieuse. L'éthique que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est une éthique religieuse. L'éthique dite laïque, c'est une éthique humaine. Je n'aime pas laïque parce que ça s'oppose. J'aimerais mieux dire une éthique humaine. Il y a une éthique humaine. L'éthique humaine, elle est fondée et elle commence avec l'amour d'amitié. L'éthique existe, la morale, l'éthique, elle existe à partir du moment où vous commencez à aimer. Il n'y a pas d'éthique au niveau logique. L'éthique n'existe que dans l'ordre des relations personnelles. C'est la relation personnelle. Vous voyez, l'éthique médicale, c'est la question de l'usage qu'on fait de la chirurgie, l'usage qu'on fait de la pilule, l'usage qu'on fait de telle ou telle chose. Ça, il y a une éthique. Elle regarde l'usage, le point de vue de l'homme. L'éthique, c'est toujours une relation d'homme à homme. Et l'éthique n'apparaît qu'au moment d'une relation d'homme à homme. Il n'y a pas d'éthique au sens rigoureux. Quand vous êtes dans une relation avec un outil, l'éthique appartient à quelqu'un d'autre et que cet outil est un outil extrêmement perfectionné, le propriétaire a le droit de dire attention, hein, il faut utiliser cet outil parfaitement, autrement vous allez le détraquer. Vous vous servez de l'automobile de quelqu'un d'autre, mais vous faites beaucoup plus attention que si c'était votre automobile. Vous avez un sens éthique qui s'éveille. Si vous faites moins d'attention, ça prouve que vous n'avez aucun sens moral. J'en profite, c'est pas la mienne. Et là, vous saisissez tout de suite ce que c'est que le sens moral. Le sens moral, c'est la relation d'homme à homme. Et la relation d'homme à homme n'est parfaite que dans l'amour d'amitié. C'est là où je saisis parfaitement l'autre. Alors, vous avez une éthique au niveau moral, au niveau humain. Alors, vous pouvez mettre entre parenthèses l'éthique, la morale laïque. J'aime pas le mot laïque, parce que je suis curé. Alors, je n'aime pas le mot éthique laïque, parce que ça s'est forgé en contradiction. Il faudrait dire l'éthique humaine. Je crois qu'on peut réagir là-dessus, parce que c'est pas très beau comme mot. L'éthique humaine, elle est en vue de la concorde entre les hommes. Elle permet l'amitié. Elle permet la confiance. Elle permet qu'on a confiance et on est heureux de se retrouver ensemble. C'est ça l'éthique humaine. L'éthique religieuse, c'est lorsque l'homme comprend qu'il est dépendant du Créateur. Alors, il y a une nouvelle dimension. Et l'éthique chrétienne, c'est lorsqu'on regarde Jésus comme sauveur qui vient nous apporter une nouvelle dimension dans l'activité humaine. Je crois que c'est très important. Par exemple, quand on parlait de l'avortement et qu'on donnait des raisons pour montrer que l'avortement ne pouvait pas être accepté. On mêlait les raisons chrétiennes, les raisons religieuses, les raisons humaines. Je crois qu'il est toujours très important dans notre monde d'aujourd'hui de discerner les raisons au niveau humain, au niveau religieux et au niveau chrétien. Alors, l'humilité, il me semble, j'ai étudié un tout petit peu la question parce que c'est intéressant. Je crois que l'humilité n'existe qu'au niveau religieux. Je crois qu'au niveau d'une éthique purement humaine, c'est la justice. C'est pas l'humilité. L'humilité n'apparaît pas. Pour que l'humilité apparaisse, il faut regarder dans l'homme qui est proche de moi la créature de Dieu qui possède en lui quelque chose que je n'ai pas. D'où je le fais passer devant moi. Alors évidemment, moi, Dieu chrétien, ça existe. Mais je dis ça à titre de recherche, hein, parce que c'est... Mais il me semble, en regardant bien le sujet, parce que je sais maintenant, quand je regarde la philosophie morale, de toujours regarder ces trois niveaux. Et je crois que c'est très important. Les trois niveaux de responsabilité. Vous avez trois niveaux de responsabilité. La responsabilité humaine, la responsabilité religieuse, la responsabilité chrétienne. Pour un médecin, c'est très très important. Parce qu'il ne parle pas de la même façon quand son client fait des déclarations qu'il est chrétien. Si le client ne fait aucune déclaration, c'est pas le médecin lui dire « êtes-vous chrétien ?» Parce que j'ai une médecine chrétienne. On ne peut pas faire ça. Le point du chrétien intervient au niveau de l'usage, pas au niveau de la spécification des médicaments et de la maladie. Il n'y a pas une maladie chrétienne. Je n'ai jamais rencontré que le christianisme intéressant, vous voyez, de la culture, vous comprenez. Il y a des cultures qui favorisent certains microbes, des microbes spirituels. Donc je crois que l'humilité, c'est une vertu religieuse et chrétienne. Et je dirais, l'humilité comme vertu et religieuse, l'humilité liée à l'esprit de pauvreté, c'est la vertu d'humilité au niveau chrétien. Pouvez-vous préciser les différences entre l'humilité et la tolérance? La tolérance est au niveau politique. C'est une attitude politique, la tolérance. C'est une attitude communautaire. Alors l'humilité personnelle, là encore c'est important de bien comprendre l'éthique politique et l'éthique personnelle. Est-ce qu'il y a une politique chrétienne? Vous savez bien, ça revient tout le temps au moment de crise. Il faudrait un parti chrétien. J'entendais ça encore l'autre jour. Vous ne pourriez pas être à la tête d'un parti chrétien? Oh, surtout pas, désastre. Oui, ça. Est-ce qu'il y a une politique chrétienne? Il y a une politique humaine. Il y a une politique religieuse. Il n'y a pas de politique spécifiquement chrétienne. Je ne crois pas. Religieuse, oui. Ça, si, c'est très net. Alors, la tolérance. Vous savez que la tolérance, au point de vue philosophique, c'est à partir du libéralisme qu'on a parlé de la tolérance. C'est John Locke, un philosophe anglais qui a vécu beaucoup en Hollande parce qu'il était chassé de l'Angleterre. Alors, il a su un manque de tolérance. Et ça l'a obligé de réfléchir sur la tolérance. Donc John Locke, le philosophe du libéralisme, faisons attention, hein, distinguons toujours le libéralisme au niveau philosophique et le libéralisme économique. C'est pas du tout la même chose. Le libéralisme philosophique, c'est de dire au-dessus de tout, c'est la liberté. Fais ce que tu veux. Moi, je fais aussi ce que je veux. Et comme ça, nous serons heureux. Non. Le bonheur n'est pas une génération spontanée parce que je respecte mon voisin et que le voisin me respecte. Le bonheur provient de l'amour et donc dans la mesure où on est finalisé. Le libéralisme est une position philosophique qui montre le primat de la liberté. On considère la liberté comme la fin, au point de vue politique. D'où le problème de la tolérance. Le libéralisme devrait aller jusqu'au bout du libéralisme, donc être tolérant avec tout le monde. Oui, mais quand vous êtes en face d'un bandit, devez-vous être tolérant? Si vous êtes en face de braves gens, ou alors, oui, oui, allons-y. Est-ce que c'est en phase anarchique? Alors c'est très curieux. John Locke dit qu'il faut être tolérant au point de vue politique. Il faut admettre l'opinion des autres, c'est bien évident. Mais il y a deux extrêmes sur lesquels il faut être intolérant, c'est-à-dire les chasser. Et ces deux extrêmes, pour John Locke, c'est l'athéisme et le catholicisme. d'être tolérant et de faire profession de tolérance. Il arrive avec son revolver. Ah, moi, je suis tolérant. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Au-delà de toutes les idéologies que vous pouvez avoir, si vous avez en main un gros bâton, vous vous mettez à le fouetter. C'est bien évident. Et quelquefois, la colère étant suffisamment forte, vous le rouez de coups. Et il ne se relève plus. Alors, vous n'avez pas voulu le tuer. Vous avez voulu vous défendre. Alors, est-ce que la tolérance supprime la défense? La tolérance brille d'une façon absolue. Consiste à tolérer les opinions des autres. Les opinions. Tant que ça reste dans les opinions, tant que ça reste les idées. Mais la tolérance ne regarde pas les actions mauvaises, violentes des autres. Alors à ce moment-là, il y a ce fait qu'on doit se défendre. On n'a pas le droit si on est père de famille. Si on est responsable d'une famille ou mère d'une famille, si on a de grandes responsabilités, on n'a pas le droit de se laisser prendre. Vous avez la question aujourd'hui, hein, où il y a constamment des vols bien organisés, très bien organisés pour les banques en Suisse. Assez souvent. Alors celui qui est là et qui est responsable, on lui dit, soyez tolérant. Alors très bien, les bandits arrivent. Laissez-vous prendre. Donnez les clés du coffre-fort s'il le faut. Parce que si tiens, les clés du coffre-fort s'il ne donne pas, donnez les clés du coffre-fort. Laissez-vous dépouiller. Oui, comme esprit évangélique. C'est beau. Mais quand vous regardez bien, pourquoi on dit ça? Parce que ça coûte moins cher que s'il y avait de la violence, on devrait payer, hein, nécessairement la pension de celui qui est mort et ça coûterait encore plus cher. Ah oui, ça c'est un esprit de tolérance économique. C'est pas du tout de la tolérance, c'est tout simplement un point de vue économique. C'est pas moral, c'est pas politique, c'est économique. Ça peut se défendre, ça peut se... Dans le cas, c'est très bien, j'aime mieux ça, que de mettre en colère quelqu'un qui, étant en colère, il est obligé de tuer. Au moins, vous lui permettez de ne pas commettre de crime. Il ne commet qu'un vol. Et le vol, on peut toujours le rattraper. Tandis que le crime, c'est plus difficile. C'est vrai, quelqu'un qui vole, on peut toujours se dire, on peut le rattraper, tandis quand on a tué quelqu'un. Alors vous voyez, c'est très délicat cette question de la tolérance et de l'humilité. C'est très différent. L'humilité est personnelle, et c'est le respect à l'égard des autres. La tolérance, c'est pas par rapport aux opinions des autres. C'est pas tellement la personne. L'humilité, c'est beaucoup plus la personne, parce que c'est moral, c'est la relation personnelle. Tandis que la tolérance, c'est beaucoup plus un équilibre. C'est beaucoup plus un équilibre. Il faut être tolérant. La tolérance appelle la tolérance, alors que la violence et la tyrannie appellent la tyrannie. Et les déviations possibles par rapport à la vérité ou à la justice, c'est évidemment une tolérance poussée jusqu'au bout. Très bien mettre entre parenthèses le point de vue de la vérité. Alors c'est à ce moment-là qu'on fait des thèses sur les droits de l'erreur. Avez-vous un droit à l'erreur? Ça c'est la tolérance poussée à l'extrême. On a un droit à la vérité. On doit chercher la vérité. Est-ce que vous avez un droit par rapport au mal? dites respectez votre voisin. S'il est dans une fausse piste, dites-lui que vous craignez beaucoup, que vous avez peur, mais il n'a aucun droit à l'erreur. Est-ce que vous avez le droit au mal? Est-ce que vous avez le droit à la souffrance? Donc il faut bien saisir la différence de l'humilité qui est au point de vue personnel et la tolérance qui est au niveau des idées. L'orgueil peut-il être source de maladies psychiatriques? Enferme alors la personne. Type paranoïa. L'orgueil peut-il être considéré prudemment comme source du premier désordre, favorisant donc les maladies, l'installation de la maladie, quelle qu'elle soit, je crois. Il ne faut pas dire que l'orgueil va engendrer nécessairement la maladie. Il y a des gens orgueilleux qui se portent très bien. On a tous rencontré des gens orgueilleux qui se portent très bien. Et des gens vaniteux qui se portent très très bien. Donc, ne disons pas qu'il y a une cause et effet. Non. Mais il est sûr que l'orgueil, c'est le premier désordre au niveau de l'esprit. Si c'est le premier désordre au niveau de l'esprit, il peut avoir d'immenses conséquences. La parole d'Aristote, hein, la petite erreur à la source fait une terrible déviation dans l'embouchure. Il parle ça pour les fleuves. En Suisse, il y a une petite promenade très intéressante où on voit les sources du Rhône et du Rhin. Quand vous voyez les sources du Rhône et du Rhin, vous voyez que c'est pas très loin. Et quand vous regardez, que vous descendez le Rhin et que vous descendez le Rhône, c'est quand même deux climats très différents. Uniquement par les vins, c'est très différent. Deux cultures tout à fait différentes. Le Rhin et le Rhône. La source, pas grande différence. Alors, si vraiment l'orgueil implique un désordre au niveau de l'esprit, tout orgueil implique un désordre au niveau de l'esprit, on tourne le dos à la véritable finalité et on se fait soi-même sa propre fin. L'ultime dernière. Si l'orgueil implique la privation d'un ordre, donc un désordre, et que ce désordre est le premier dans l'ordre de l'esprit, il aura d'immenses conséquences. Mais je ne peux pas établir un ordre de causalité précis. Bien connu. Quand vous pouvez soutenir audacieuse. C'est pas la véritable force. L'orgueilleux peut être fort parce qu'il veut manifester sa grandeur, parce qu'il cherche sa gloire. Alors, cherchant sa gloire, il peut mettre toute son énergie dans la recherche de cette gloire. Donc, il peut déployer une certaine force et momentanément, il peut être utile enfanté. Il en est aussi parvenu. Mais, dès que l'échec commencera, ou dès que la vieillesse commencera, c'est terrible pour un orgueilleux de vieillir. Parce qu'il ne peut plus avoir la même maîtrise sur lui. Alors, il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas toutes ces petites failles. Alors, on comprend très bien comment il y a une répercussion du point de vue intérieur, donc de ce que représente l'humilité, qui favorise un véritable amour. Seront gardiennes d'un amour spirituel et de la croissance d'un amour spirituel. Alors que l'orgueil va très vite devenir rival. Le mal n'a pas de cause propre. Ça, nous le verrons. C'est très vrai. Le mal n'a pas de cause propre. Ce serait très intéressant pour la médecine. Ça, quand vous cherchez à guérir le mal, il faut toujours, attention, vous essayez de fortifier un homme en bonne santé qui commence à être fatigué, vous essayez de le maintenir en bonne santé. Ça oui, il y a une cause. Il y a une cause propre de la santé. Alors vous luttez contre le mal en fortifiant le bien. Parce que le mal, c'est ce qui vient diminuer le bien. C'est très important de comprendre ça. Je vous dis, c'est une petite question qui vient préciser ce que nous avons vu jusque maintenant. Nous avons vu que le mal est toujours relatif, qu'il n'y a pas d'absolu dans le mal. Vous n'aurez jamais un maxime étalé dans le mal. Si vous l'avez trouvé, vous me le direz. C'est impensable. C'est pour ça que la philosophie dualiste est impensable. Parce qu'il faudrait un principe propre qui ne soit que le mal en soi. Le mal en soi n'existe pas, tandis que le bien en soi existe. Le mal est toujours relatif. Il est privation, il est contraire. Donc il est relatif à un sujet. Et quel est le sujet du mal? C'est le bien. C'est le bien. C'est l'homme bon qui est privé de telle ou telle qualité. C'est l'homme bon qui, sous l'action de telle ou telle tentation, en raison de telle ou telle faiblesse, commence à s'enorgueillir. Toujours le sujet du mal, c'est le bien. Alors, en comprenant bien, c'est pas le bien absolu. C'est l'être capable de privation, capable de désordre. Donc, c'est pas le bien absolu. C'est le bien substantiel. C'est le bien radical. Parce que le bien qualité lutte contre le mal et le bien qui me finalise dans mon activité empêche l'orgueil. De sorte que il faut bien préciser que le sujet du mal, c'est le bien substantiel, c'est la personne humaine. Et c'est vrai que c'est la personne humaine qui est le sujet de plus de maux. L'animal souffre moins que l'homme. L'homme dépasser les passions. On demeure dans le sensible. L'égocentrisme, c'est la passion, c'est le sensible. La jouissance, c'est le sensible. On n'atteint pas ce dépassement spirituel. C'est vrai. Quand vous regardez l'homme, l'homme et la femme, vous apercevez que c'est pas commode d'être un être spirituel avec le poids du corps. C'est pas commode d'habiter cette cathédrale de molécules que représente le corps humain et de faire que toujours l'esprit reste lumineux au terme. Il y a une belle complexité dans l'homme, une complexité qui va si loin. Alors l'unité, très facilement, tend à disparaître. Voir comme je te pousse. La plupart des hommes sont comme ça. Ils sont menés par les propagandes. Ils sont menés. Mais quand on est mené, on n'a jamais aucun bonheur. Ça, c'est très cru. Celui qui est mené, il est esclave. Le bonheur n'est pas pour lui. Il faut une certaine autonomie pour avoir un peu de bonheur. Et la plupart du temps, on n'atteint pas le bonheur parce qu'on est mené. On est mené par la masse. On est mené par les propagandes. On est mené par quelqu'un d'autre, une personne. La condition du bonheur, c'est d'avoir une certaine autonomie. L'autonomie de la personne. Il n'y a que la personne qui est heureuse. Autrement, on est un robot. Et un robot ne peut pas être heureux. Or, la plupart du temps, il faut bien le reconnaître, la plupart du temps, les hommes n'ont pas assez d'autonomie. Ils se laissent mener par les propagandes. Et donc ils retombent dans le sensible et l'imaginaire. Vous voyez la télévision, les ravages de la télévision, les effrayants, au point de vue culture. Ça arrivera à faire des gens qui ne pensent plus. Ils voient des images. Alors, voir des images, c'est pas penser. Alors, on se laisse mener, on se laisse guider, et le bonheur disparaît. C'est très vrai qu'au point de vue proprement humain, c'est pas commode, étant donné la complexité de l'homme, étant donné la fragilité de son esprit, de voir comment l'esprit arrive à dominer la matière et sans la mépriser, sans la rejeter, arrive à l'assumer et à la dépasser et à orienter la vie humaine vers un véritable bien spirituel. C'est difficile d'être homme. Oui. Quand je regarde le problème du mal, je vois que le mal s'étend de façon étonnante. Je ne sais pas s'il y a plus de mal aujourd'hui qu'au Moyen-Âge. C'est un faux problème. On ne le saura jamais. Mais je le regarde aujourd'hui. Et je vois bien que le mal est très puissant. Et il est très puissant. Quand je dis que le mal est très puissant, or le mal est une privation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les forces du mal, l'orgueil, est très puissant. Et l'orgueil, c'est l'orgueil d'être humain, spirituel. Et si on regarde au point de vue théologique, on dira que c'est l'orgueil d'esprit pur que sont les démons. L'orgueil est très puissant dans le monde d'aujourd'hui. Toutes les tyrannies sont à base d'orgueil. abandon, de chute, d'esclavage. Est-ce que j'étais tyran? Ou est-ce qu'au contraire, j'étais serviteur? Le tyran augmente le mal. Le serviteur augmente le bien. Et on a les deux en soi. Et je ne dis pas que simultanément, peut-être les deux, mais quelquefois dans la même journée, vous êtes tyrannique vis-à-vis de certaines personnes que vous aimez beaucoup. Et vous êtes serviteur d'autres personnes que vous aimez beaucoup. C'est très curieux. L'amour passionnel conduit très vite à la tyrannie. L'amour passionnel, l'amour spirituel, non. Mais l'amour passionnel conduit très vite à la tyrannie et à la haine. Tandis qu'au contraire, l'amour spirituel me met serviteur de ce rêve. Donc, voyons là, voyez combien toutes ces questions du mal et du bien au niveau sensible s'enchevêtrent constamment. C'est dans ce sens-là que beaucoup de psychologues diront qu'on ne découvre jamais un bien absolu sans le mal, et qu'on ne découvre jamais un amour sans haine. J'ai entendu ça combien de fois? Je l'ai lu. Alors il faut bien distinguer, parce qu'il faut savoir répondre à ces questions-là. Il faut reconnaître qu'au niveau passionnel, au niveau sensible, c'est vrai. Toute passion amoureuse, l'amour passion, implique en soi une capacité de haine. On voit ça dans tous les romans. C'est ce que Lavel dit en disant qu'il y a un ver rongeur dans tout amour. Et je dis bien dans tout amour passionnel, il faut tout de suite ajouter ça, dans tout amour sensible. Quand je suis au niveau de l'amour spirituel, alors là c'est pas vrai. L'amour spirituel n'implique pas en lui un germe de haine. L'amour spirituel se porte sur un bien spirituel qui lui est au-delà du mal. Et donc l'amour spirituel peut être pur. Mais vous savez très bien que tout amour dans l'homme implique nécessairement des éléments sensibles. Je ne peux jamais aimer d'une façon absolument spirituelle parce que j'ai un corps, j'ai la sensibilité. Et l'amour saisit tout l'individu. Si l'amour saisit tout l'individu, nécessairement, il peut être à son sommet spirituel, désintéressé. Mais il implique des éléments passionnels et sensibles, imaginatifs, qui eux sont intéressés. C'est pour ça qu'il n'existe jamais, d'une façon absolue, un amour pur. On tend vers un amour pur, on doit y tendre. Mais au point de vue humain, je parle au point de vue philosophique, il n'existe jamais un amour absolument pur. Mais c'est l'histoire de Brémond qui est si jolie. Quand il parle de l'amour pur, Brémond, alors là il se parle d'un point de vue en historien. Alors c'est la querelle de l'amour pur, du pur amour. Est-ce que le pur amour existe? Alors Brémond, c'est de très beaux textes, de très belles déclarations, mais il cite aussi les applications pour bien montrer que l'amour pur n'existe jamais dans toute sa pureté. Alors il cite cet exemple de cette personne importante dans le petit village où elle était, qui offre au curé de quoi acheter une cloche plus importante que celle qui existe, donc avec un son bien plus. Et puis elle dit, monsieur le curé, il est bien évident que le curé, vous ne direz pas en chair qui a payé la regardez où est-ce que vous cherchez l'amour. On cherche à aimer. Et en aimant, on se donne. Et en se donnant, on va vivre d'un amour pur. Lorsque l'amour aura tout pris. Un amour qui n'est pas très grand et toujours lié nécessairement à la passion. Et la passion implique le retour sur soi. Et donc il y aura toujours ce retour sur soi. Alors vous voyez, c'est intéressant au point de vue du mal. Le retour sur soi est quelque chose qui diminue l'amour. C'est le mal de l'amour. Puisque l'amour demande le don. Et le retour sur soi, ça fait partie de l'amour passionnel. Parce que l'amour passionnel est imparfait comme amour. Et donc il implique nécessairement ce retour sur soi. C'est impossible autrement. Vous ne pouvez pas aimer passionnément les fraises sans les manger. C'est impossible. Quelqu'un qui dit, j'aime passionnément les fraises. Puis on lui sait, ah non, j'en mange pas, j'aime mieux les regarder. Non, non, c'est la même chose pour le vin. La fameuse phrase d'Aristote, quand vous dites, j'aime le bon vin, est-ce que vous aimez le bon vin pour le vin ou pour vous? Pour que le vin soit bon, il est bon pour vous. C'est pour ça que vous aimez le bon vin. Tandis que vous pouvez aimer quelqu'un pour que cette personne soit parfaite en elle-même. Oui, l'amour passionnel est toujours un retour sur nous. C'est impossible autrement. Il est égocentrique. Tout amour passionnel. Donc, c'est pas le mal de l'amour passionnel, c'est sa nature. L'amour passionnel est comme ça. Il ne peut pas être autrement. Parce que c'est un amour qui est dans le domaine sensible. Alors il implique cela. Tandis que l'amour tout court peut être spirituel. Et peut-être alors, lui, impliquant un don. Il y a un don total, sans impliquer ce retour. Mais, comme cet amour spirituel, il existe dans l'homme, et que l'homme est un être qui implique la sensibilité, cet amour spirituel, avant d'être vraiment totalement spirituel, va assumer toute une dimension sensible, toute une dimension passionnelle. Et il demandera de se purifier. Là, vous voyez le mélange. Ce qui est mal à un niveau supérieur n'est pas mal à un niveau inférieur. La passion, qui est un amour sensible, implique le retour sur soi. L'amour spirituel, qui réclame un don total, ne veut pas ce retour sur soi. Il est extatique. Donc, il implique le don total. Donc, c'est là où on voit très bien la difficulté de comprendre le domaine de la privation.